bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles à l'écoute de la tribune de presse de ce vendredi 2 septembre 2016 que vous présente Berry Franklin Louchaka. Un seul thème réunit les journalistes ce soir. Le facilitateur Edem Kodjo a ouvert hier jeudi à Kinshasa et pour 2 semaines le dialogue politique en RDC. Pendant ce temps, le rassemblement des forces acquises au changement a remis au bureau de l'Union africaine, à la MONUSCO et dans les missions diplomatiques une feuille de route pour un dialogue inclusif. Comment analyser ces assises? Pour en parler, je reçois dans ce studio avec moi John Omombo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendant basé à Kinshasa. Joël Kadedanga, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa. Et en province, Jeff Mwingam, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditeur du journal Le Fédéral, un journal paraissant à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Et je dis aussi bonsoir à Paul Badianyama qui assure la mise en onde de ce numéro. Mais avant tout, voici la revue de presse que nous présente Kelly Kouté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Les journaux kinois reviennent essentiellement sur l'ouverture du dialogue politique. Le Phare enseigne que les principaux intervenants à la cérémonie d'ouverture du dialogue, jeudi 1er septembre 2016 à la Cité de l'Union africaine, ont fait une profession de foi, le respect de la Constitution, dans tout ce qui va être débattu et décidé. Le journal fait remarquer que le représentant de l'Union africaine, le chef de la MONUSCO, mais aussi le facilitateur Edem Kodjo et les co-médiateurs Vital Kamerhe ont insisté sur la nécessité de la mise en œuvre à l'occasion du dialogue d'un calendrier électoral précis au sujet de l'élection présidentielle. UDPS, MLC, G7 et autres dialogues, Vital Kamerhe veut réconcilier le deux ailes de l'opposition, titre la prospérité et l'inclusivité du dialogue. Et on fait défaut, rapporte le quotidien. Vital Kamerhe, désigné co-modérateur pour le compte de l'opposition pro-dialogue, a sollicité et obtenu une pause de 2 à 3 jours pour persuader les forces politiques membres du G7 de la dynamique de l'UDPS de Tshisekedi et tous les autres acteurs du rassemblement encore hostiles au dialogue politique facilité par le Togolais Edem Kodjo. Pour le tabloïd, Kamerhe envisage travailler avec le concours bienveillant de la CENCO et des acteurs de la communauté international. L'avenir, qui reprend les propos de Vital Kamerhe à l'occasion de l'ouverture du dialogue, fait remarquer que pour le président de l'UNC, ce forum politique a un objectif clair. Le premier objectif est d'organiser les élections transparentes et apaisées. Ces élections devront déboucher sur une alternance démocratique. Nous ne sommes pas là pour trahir, pas pour violer la Constitution. Nous sommes là pour donner la chance à la paix et avoir des élections, indique le journal. La prospérité relève que juste après la cérémonie d'ouverture, l'opposition républicaine, plateforme à laquelle appartient le président du Sénat, Léon Kingua Dondo, a exprimé son regret de constater la désignation unilatérale du modérateur de l'opposition. Les membres de cette opposition constatent aussi que le dialogue n'est toujours pas inclusif. L'opposition républicaine menace de suspendre sa participation si jamais le dialogue voulu inclusif perdure dans son état actuel, conclut le journal. Pendant ce temps, dialogue national 33 ONG de défense des droits de l'homme interpelle Kodjo. On peut lire sur www.radiocapi.net que ces ONG demandent à Edem Kodjo de supprimer la composante personnalité politique sur la liste des participants au dialogue. Demande formulée mardi 30 août dernier à Kinshasa au cours d'un point de presse. Personnalité politique est une qualité subjective qui peut donner lieu à beaucoup d'abus, explique ces organisations. Georges Kapiamba, coordonnateur de cette coalition, plaide aussi pour la suppression des indemnités à accorder aux participants.
Merci Kelly Kouté. Dans l'actualité, sachez qu'au Gabon, Ali Bongo Ondimba est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle organisée samedi dernier. Il a obtenu 49,8% des voix contre son principal adversaire Jean Ping, qui a obtenu 48,23% des suffrages selon la Commission électorale nationale autonome et permanente. Des troubles ont éclaté à Libreville à l'annonce de ces résultats contestés par l'opposition, dont les délégués n'ont pas pris part à l'annonce. L'Assemblée nationale a été incendiée mercredi soir par des manifestants et en réaction, la France et l'Union européenne demandent la publication des résultats par bureau de vote. John, vous avez suivi cette actualité, comment vous l'avez analysée?
J'ai eu l'impression que cette commission électorale, elle est plus permanente qu'autonome, parce qu'elle se veut autonome. Mais quand je vois tout ce qui se passe, il y a de quoi s'interroger sur l'autonomie de cette commission électorale. Et puis aussi, nous avons l'impression que l'Occident veut nous démontrer qu'il n'existait pas d'élection indépendante, transparente en Afrique. parce qu'ils ont toujours un mot à dire. À plus de 8000 kilomètres, c'est eux qui doivent juger de la sincérité, de la transparence et de la crédibilité.
Ils envoient des observateurs, John.
Nous avons vu ici, même au Congo, des observateurs qui sont venus avec leur rapport en poche. Pendant que les élections se déroulaient, eux, ils étaient dans les hôtels en train de prendre du café. Mais à la fin, c'est des rapports qu'ils vont produire, des rapports erronés qui ne reflètent pas la réalité.
Et vous pensez
le vrai problème du Gabon, c'est que les personnes qui ont fabriqué Ali Bongo, aujourd'hui, ne trouvent plus leur intérêt dans Ali Bongo. Et nous le comprenons. Vous avez suivi même dans les médias français le débat avec Bourgi, tout ce qu'il a démontré, un avocat, tout ce qu'il a expliqué. Mais bien avant, il avait démontré comment il avait amené Ali Bongo, il l'a pris par la main, il l'a amené à Élysée, et c'est Élysée qui avait décidé qu'Ali Bongo puisse être président. Et donc aujourd'hui, nous devons savoir qu'en Afrique, lorsqu'il y a un président, un dirigeant qui voudrait de l'intérêt de sa population, en tout cas, vous êtes désavoué. Alors, 49%, là encore, ça m'inquiète un peu. Si j'étais au Gabon, je pourrais poser la question à Monsieur Bongo. Comment vous vous sentez dans votre peau de président élu avec 49% contre 48%? C'est trop serré. Ça montre que il faut tenir compte justement de la réalité du terrain, de ce que dit sa population. C'est très important.
D'accord. Alors, Joël Kadé, lorsqu'on analyse un peu le parcours de Jean Ping, qui a été à la Commission de l'Union africaine, etc., comment est-ce que vous analysez sa réaction à l'annonce des résultats présidentiels?
Je crois qu'il faut d'abord situer quelque chose. Il ne faut pas qu'on soit toujours là en train de responsabiliser l'Occident pour nos propres erreurs. J'ai salué dans ce qui est arrivé au Gabon leur capacité à nous imiter ou à s'inspirer du modèle congolais.
Comment
ça? Nous avons eu certaines circonscriptions électorales où la participation avait même dépassé le nombre d'inscrits, le nombre d'enrôlés. Ça s'est passé à Manono, ça s'est passé dans tous les territoires de ce qui s'appelle aujourd'hui Olomami ou Tanganyika, où on a vu le nombre de participants à l'élection excédentaire par rapport à ceux qui ont
été enrôlés.
Donc, quand je voyais le vice-président de la commission électorale gabonaise parlait, j'ai dit, ah, mais il devrait quand même féliciter Ngoï Moulunda chez nous, parce que c'est déjà arrivé chez nous, ça c'est de deux, de trois. Qu'on adopte alors un autre système, comme l'a toujours dit Nazem Nazembe, la démocratie consensuelle, la démocratie, que cette démocratie consensuelle soit consacrée dans la constitution de telle sorte, comme il a 49 et que l'autre, ils sont poursuivants à 48, directement s'il y avait cette démocratie consensuelle, il est président, l'autre est premier ministre, ils dirigent ensemble, et quitte à mettre ensemble les programmes de gouvernement de l'un et de l'autre et faire avancer
Mais Jean Ping a affirmé qu'on a volé son élection.
Mais mon cher, c'est noir sur blanc, je ne suis pas gabonais. Mais lorsque vous constatez pourquoi la publication des résultats a tardé, c'est effectivement parce qu'on devrait attendre que les résultats de chez eux, de Tanganyika de chez eux, du Nord Katanga de chez eux, arrivent. Il a fallu qu'on attende 2-3 jours pour que ça soit publié. C'est exactement ce que nous avons vécu ici chez nous en 2011, ce qu'on a vécu dans l'Est de la RDC. Où est-ce que vous avez vu un président, même si c'est dans son propre village, tout le village l'a voté et la participation est à 100%. Donc, c'est que dans ce village-là, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de malades, il n'y a pas eu des gens qui n'ont pas voulu voter, il n'y a pas eu des gens qui se sont abstenus. Donc, uniquement pour vous dire que la tricherie sur tricherie, bon, ils se sont servis de l'exemple congolais. Bravo à eux.
Merci beaucoup. Jeff, la communauté internationale, notamment la France et l'Union européenne, demande le recomptage des voix dans cette élection gabonaise. Comment vous analysez cela?
Oui, en fait, c'est au regard déjà des résultats comme les amis l'ont dit là, on comprend vite qu'il y a un problème, ça c'est vrai. Parce que 49 contre 48, c'est vraiment serré. Il est vrai aussi que Jean Ping, c'était toute une coalition. Mais plus de 5 ans au pouvoir déjà de Ali Bongo,
c'est temps précisément.
Il serait mieux que ça. Kadé disait qu'ils se sont servis du modèle congolais. Effectivement, même les résultats au Congo, c'était presque de la même façon comme ça. Bon, je voudrais revenir à ce que John disait un peu au début là. Ne donnons pas beaucoup plus l'occasion à l'Occident. C'est nous-mêmes qui donnons l'occasion à l'Occident de nous juger comme ça. Nous pouvons faire les choses correctement nous-mêmes, sans pour autant recourir toujours à l'Occident. Parce que la démocratie à l'occidental, c'est souvent ce que eux veulent. Si vraiment aujourd'hui l'Occident disait que Bongo a gagné, et c'était bien passé, je pense tout le monde applaudirait. Et comme l'Occident a déjà remis en cause quelque part là, très vite on trouve qu'il y a eu tricherie. C'est ça le grand problème que nous avons. Le grand problème que nous avons aussi, c'est que les politiciens africains d'une manière générale, comme disait le cardinal Malula, ils vivent dans le mimétisme tragique. Ils veulent faire tout ce que les blancs font, mais ils ne le font pas bien, malheureusement. Voilà. Et ce qui fait que quand les intérêts des blancs ne suivent pas, bon, les mêmes blancs, ils vous vomissent, c'est ça la situation. Le recomptage manuel, moi, je ne trouve pas que ce soit un problème, parce qu'on l'a déjà fait aux États-Unis, les pays à très vieille démocratie, on l'a déjà fait une fois, on a eu à réclamer qu'on fasse le recomptage. Si réellement Bongo estime qu'il a gagné, et qu'il est tranquille, bon, qu'on recompte, à ce moment-là, ça va... apaiser un peu la situation politique au pays.
Très rapidement, Jeff, vous avez la parole en une minute. Qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous à Lubumbashi?
Ah, l'actualité chez nous à Lubumbashi, c'est effectivement les échauffourées qui ont eu lieu dernièrement le 29 à la commune Kenya, avec tout ce qui s'en est suivi, les arrestations, les condamnations, où vous avez même un bourgmestre adjoint qui a été condamné. 5 ans, je pense, quelque chose comme ça. C'est ce qui fait l'actualité, la situation qui a dégénéré entre les militants du rassemblement et la police nationale congolaise.
Merci beaucoup. Alors, très rapidement, messieurs, je vais vous demander votre pronostic, parce que ce dimanche, il y a déjà le match de la qualification pour la CAN 2017 au Gabon. John, quelle chance vous donnez aux Léopards de la RDC?
Je suis congolais, journaliste. Le souhait, c'est qu'ils réussissent justement la bataille. Et la RDC, c'est une équipe de grande surprise. Là où on lui a promis l'échec, il réussit toujours.
Joël Kadé.
Koundé Politista. C'est qui vrai que nous allons gagner par 2-0.
Merci beaucoup. Alors Jeff, votre pronostic?
Oui, nous gagnons. Nous sommes patriotes. Nous ne pouvons que soutenir notre équipe. Nous allons gagner. Nous gagnons 2-0, comme Kadé l'a dit.
Merci beaucoup. Et c'est sur cette note que nous allons commencer notre unique thème de la soirée qui concerne le dialogue. Le facilitateur Idem Kodjo a ouvert hier jeudi à Kinshasa et pour 2 semaines, le dialogue politique en RDC. La cérémonie a été marquée par les discours du gouverneur de la ville de Kinshasa, du représentant de la présidente de la Commission de l'Union africaine, du chef de la MONUSCO, de Vital Kamerhe, ainsi que du facilitateur lui-même. À l'occasion, Edem Kodjo a fixé l'assistance sur la suite du programme. Plus de précisions avec vous, Jeff Ngoy.
Edem Kodjo a inauguré les travaux du dialogue national en précisant qu'il s'inscrit dans le cadre de la résolution 2277 et que sa feuille de route ne va pas violer la Constitution. Tous les contours de ce dialogue ont été bien définis, a souligné le facilitateur qui a invité l'UDPS et le Rassemblement à rejoindre le bercail. Il a également exhorté les délégués au dialogue à mesurer les exigences de la mission qui les attend. Maman Sidikou, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a souligné dans son discours que la cérémonie de ces jours constitue certes un pas très important, mais l'absence d'une frange significative de la classe politique met en exergue la nécessité de poursuivre des efforts afin de l'amener à se joindre à ce processus. Au nom de toute l'opposition réunie au chapiteau, Vital Kamerhe de l'UNC a sollicité auprès du facilitateur la suspension des travaux pour 2 jours, afin qu'il entre en contact avec l'UDPS et le G7. Nous ne sommes pas ici pour offrir un 3e mandat à Joseph Kabila. Même nos amis de la majorité présidentielle ne le cautionnent pas, a martelé le président de l'INC, de la Cité de l'Union africaine, Jeff Ngoy, Radio Okapi.
Et je rappelle que ce vendredi, les travaux étaient plus concentrés sur l'harmonisation des listes dans les avant-midi. Mais qu'attendent exactement les Kinois de ce dialogue? Quelques Kinois rencontrés donnent leur avis au micro de Jacques-Yves Moulimand.
Que les hommes politiques essaient de résoudre politiquement des questions qui bloquent la marche normale de la société congolaise.
Je n'entends rien de ce dialogue parce que il ne reflète pas l'inclusivité des Congolais.
J'attends une bonne nouvelle. Tous les peuples congolais, qu'on soit dans la même ligne, unis, travaillent pour le pays.
Le dialogue sans opposition est nul. Quelle opposition, mon cher ami? Ces gens-là, ils sont mandatés par qui? Nous avons des vagabonds politiques dans la politique, nous avons des vagabonds. Le dialogue sans l'opposition est nul.
Je suis pour le dialogue, mais pas sous la forme actuelle.
Je ne vois pas quelque chose d'intéressant qu'on va tirer là-dessus. Presque tous les ténors de l'opposition ne sont pas représentés. Donc, ça va aboutir à rien.
Dialogue, en tout cas, on n'attend rien parce que les jours où on va payer les militaires, ça sera un peu bien, tous les fonctionnaires. Mais du dialogue, en tout cas, bon, on n'espère rien de là.
On fait autre chose, la politique aux politiciens.
Il y a un problème au pays. La population s'est patiente, n'est-ce pas, pour un changement. On voudrait avoir un compromis au sommet de l'État pour avoir l'organisation des élections.
Vous venez de nous prendre en cours. Sachez que la tribune de presse de ce vendredi 2 septembre reçoit dans ce studio John Omombo, journaliste indépendant basé à Kinshasa, Joël Kadidanga, éditeur du journal Impact News paraissant ici à Kinshasa, et Jeff Mwingamb, éditeur du journal Le Fédéral paraissant à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Messieurs, une première question. Comment vous avez analysé l'ouverture de ces assises, John?
C'était des assises très attendues, comme le disait Eden Kodjo. C'est une question de responsabilité. Définir le destin de toute une nation, définir l'avenir de la République, parce que la République est en danger. Le processus électoral est en panne. Les histoires, les problèmes se compliquent davantage. Il faut une solution courageuse pour sauver le pays. La République démocratique du Congo partage exceptionnellement 9 frontières avec ses voisins. Ce n'est pas bon d'embraser le pays. Et j'ai suivi également le discours du représentant de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine, qui a salué justement le sens des responsabilités des Congolais, tout en appelant ceux qui traînent encore à pouvoir rejoindre ce bateau du dialogue. Dans la même lignée, Mamane Sidikou a réaffirmé le point de vue des Nations Unies. Pour lui, les Nations Unies considèrent ce dialogue comme étant la seule voie pour trouver une solution pacifique à la situation du Congo.
Et dans le respect de la résolution 2277.
Kamere l'a rappelé dans son message. C'est un discours que même Edem Kodjo a dit, que c'est un dialogue qui répond à la résolution 2277, mais également à la constitution de la République démocratique du Congo. Donc dans l'ensemble, Edem Kodjo, qui s'est d'ailleurs appuyé sur les propos de Patrice Emery Lumumba, c'était un discours très fort, pénétrant, accrochant, et pour moi, c'est une question de responsabilité. Mais maintenant, le problème, c'est au niveau de la forme. La forme, comment on a préparé ce dialogue, c'est là l'inquiétude.
Et on en parlera.
Oui, justement, parce qu'il ne faut pas qu'on traite avec des individus. L'inclusivité suppose les structures, pas des gens qui peuvent être comme des sous-traitants. Non, ça, je pense que c'est difficile de digérer des choses comme ça.
D'accord. Joël Kadek, est-ce que vous partagez l'analyse que vient de faire John?
Vous savez, avec une intelligence comme celle de John, vous n'avez rien à dire lorsqu'il a entamé un débat, parce qu'il a pratiquement tout dit. S'il faut le compléter, mon journal et l'honorable Nazem Nazembe, nous avons soutenu depuis plusieurs années ce dialogue. S'il pouvait venir avant la loi à Boshab, qui avait ensanglanté Kinshasa et quelques provinces, comme on l'avait demandé au départ, on aurait évité les morts d'hommes. Mais malheureusement, les politiciens ont trotté les pas jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on arrive à ces dialogues. Mais les dialogues voulus et attendus de la population congolaise, ce n'est pas le décor du théâtre qui nous a été offert hier. En tout cas, lorsque vous regardez la manière dont les choses se sont déroulées hier, donc vous avez l'image d'une sorte de théâtralisation de la scène politique congolaise, où tous les discours, en dehors bien sûr de celui lu par le représentant du secrétaire général des Nations Unies et le chef de la MONUSCO, donc vous sentez comme si c'est c'est une sorte d'une cuisine prête à consommer, une sorte de fait accompli. Et celui qui viendra pratiquement donner de la valeur ou de la hauteur à cette scène de théâtre, c'est pratiquement le discours improvisé de Vital Caméré, qui vient tout en tendant la main à ceux qui sont encore en dehors, mais il s'érige déjà en chef de la délégation de l'opposition. Je ne vois pas Mondo Simba, je ne vois pas Lutundula, je ne vois pas Tshisekedi pour ne pas le citer, venir derrière Caméré pour dire que non, c'est toi notre chef de l'opposition. Bon, comme il aime jouer un peu à la vedette, toutes les fois il veut en sortir, et en plus, il dit quoi qu'il va aller les rencontrer. Et pourtant tout le monde savait, c'est la forme dont John a parlé. Tout le monde savait, pour ceux qui sont informés, on savait déjà qu'il avait été demandé à l'organisateur du dialogue, au facilitateur, de repousser de 2-3 jours pour donner la chance à l'entrée des autres. Mais lui veut faire passer ça comme si c'est Caméré qui demande la suspension et tout le monde saute sur ça.
D'accord.
Donc, je voudrais finir pour dire, nous avons besoin du dialogue attendu et voulu par la population congolaise, où on va traiter essentiellement des questions liées aux élections, de telle sorte qu'on évite le chaos tel qu'il est en train de se vivre au Gabon aujourd'hui.
Merci. Jeff, comment vous les avez analysés à chaud?
Comme le disaient les amis, une chose était certaine, que ce dialogue, nous attendions que devait finalement avoir lieu, malgré tout ce qu'il y a eu comme tergiversation des hommes politiques, ce qui nous a coûté beaucoup de temps pour rien. Et une chose aussi est certaine, est que nous finirons toujours par arriver à une conclusion. En tout cas, une conclusion n'importe laquelle. Ça, on est sûr. On connaît les hommes politiques. Et comme je disais, les uns et les autres, tous, ils sont sous le chapeau de la communauté internationale et de leurs parrains occidentaux. Donc, il y a toujours quelque chose qui est déjà préparé. On arrivera à ça. Nous avons suivi des discours, c'est vrai, de bons discours, de bonnes intentions, on dirait les uns les autres, d'entrée des jeux déjà, devaient démontrer c'est à quoi on s'attendait pour s'attirer la confiance de la population. Laquelle population? Vous avez suivi l'échantillon quinois qui a été interrogé, une population très sceptique, parce que nous connaissons les politiciens congolais, comment ils commencent, nous savons aussi comment ils peuvent finir. Les tergiversations, comme je disais, ne nous ont pas beaucoup aidés, et malheureusement ça continue encore. Caméré aussi, et plutôt Kodjo, quand vous suivez dans son discours quelque part, il semblait commencer à faire déjà une sorte de déballage contre Tshisekedi. Quand il dit la rencontre de Paris, il y a eu entre l'opposition, notamment l'UDPS et la majorité, il s'était déjà entendu sur la manière dont le dialogue devait se dérouler. Vous voyez, encore cette façon aussi, moi je pense au moins que ce sont des éléments qui peuvent ne pas inspirer confiance dans l'autre camp, notamment à ceux du rassemblement. Mais sinon, tous les discours tels que nous les avons suivis sont des bons discours. Ce sont des discours qui vont tout droit dans le but que nous voulons tous, c'est-à-dire d'organiser des élections libres, transparentes et apaisées, et avec l'implication de tout le monde.
Merci.
Mais la question qu'il faut aussi se poser, c'est que on parle souvent de l'inclusivité. Bon, en fait, j'ai suivi même le confrère Cadet, il a tendance à individualiser même le forum. Vous voyez, une ou deux personnes peuvent ne pas être là, mais les Congolais, les Congos, ce n'est pas une affaire de quelques individus, hein. Aujourd'hui, prenons par exemple Tshisekedi entre, quand les autres là, Katumbi et les autres entrent. Bon, vous avez par exemple, il y a des forces chombistes qui restent encore en Angola jusqu'à ces jours, et on ne fait pas attention à eux. Vous avez des Maï Maï ici au Katanga avec les Gédéons, ils peuvent aussi réclamer. Vous voyez que la notion d'inclusivité là devient une notion un peu à la fois péjorative et même subjective. Moi je pense qu'il faut voir le sens. S'il y a des gens, comme avait dit Kodjo déjà dès le départ, qui ne veulent pas venir, on les laisse, que la République avance et que tout le monde voit que ces gens n'ont pas la volonté.
D'accord. John, comment vous analysez maintenant le refus intransigeant du Rassemblement qui estime que le vrai dialogue n'a pas encore commencé?
D'abord, le discours d'Edem Kodjo, il a replacé les choses dans leur contexte. Et c'était très important que l'opinion soit informée. C'est ça le rôle d'un facilitateur. Il n'a pas de décision à prendre, mais pour lui, il était très heureux, très content de voir l'UDPS, le premier parti de l'opposition, manifester l'intérêt de rencontrer le facilitateur.
Mais, comment vous expliquez le fait que Kodjo lui-même qui avait annoncé qu'il n'y aura pas de dialogue sans l'UDPS, aujourd'hui qu'il ouvre sans l'UDPS?
C'était des négociations directes. Ça, c'était encore le deuxième point positif qu'il a retenu dans son travail. Quand il a rencontré justement autour d'une table, il a facilité la rencontre entre la majorité présidentielle et une délégation qui était conduite par Nemi Wilonja, comme il avait lui-même dit, et puis l'équipe de l'UDPS. Il y a eu un accord, il a fait allusion à cet accord-là. Ce que Kodjo a dit, ce n'est pas un déballage contre un individu. C'est justement cette vérité pour inviter les leaders politiques congolais à rester constants dans leur démarche.
Mais, mais ils n'ont pas constaté les mesures de décrispation qu'ils attendaient.
Les mesures de décrispation, vous savez, en théorie des négociations, lorsque nous deux, Berry et John Omombo, sont en conflit, nous ne pouvons pas nous mettre tous dans la position haute. À un certain moment, quelqu'un se met en position basse et puis l'autre se met en position haute.
Mais c'est comme ça, que le Rassemblement estime que le gouvernement n'a pas fait suffisamment, n'a pas décrispé suffisamment la position, le climat politique.
Ne me donnez pas l'impression que je dois parler en faveur du gouvernement, mais en tant que scientifique, dans un processus de négociation, les partis doivent apprendre à faire preuve de flexibilité, de bonne foi. C'est ce que le gouvernement a fait. Mais j'ai l'impression que le Rassemblement durcit encore ses positions. Donc, en réalité, le problème du Rassemblement, c'est quoi? Ce n'est pas, en fait, le problème des prisonniers politiques, parce que le pas a été suffisamment mené, d'abord à Kinshasa. Nous avons appris une centaine encore, je crois, dans la province, dans l'ex-province orientale. Il y a des efforts qui sont fournis. Des responsables des Nations Unies, de toutes les organisations internationales, saluent ce qui a été fait par le gouvernement et demandent justement au gouvernement d'élargir, d'étendre ces mesures, ce qui est bon. Mais le problème du Rassemblement, le vrai problème, j'ai l'impression, c'est justement l'arrêt des poursuites contre Katumbi. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non. C'est ça le grand problème.
Il y a aussi la libération de Jamdio Bindonga, là.
C'est, je pense qu'il y a des revendications principales et des revendications conditionnelles ou des revendications subsidiaires. Mais ce que je vais dire très rapidement ici, c'est que nous avons la responsabilité d'inviter les leaders politiques congolais à demeurer constants, fidèles, à nous éviter d'être des hommes des rendez-vous manqués, à éviter d'individualiser justement l'exercice du pouvoir. Sans moi, il n'y a pas de crédibilité dans ce processus. Sans moi, il n'y a pas ceci. Le peuple a besoin d'un comportement citoyen. Un comportement citoyen suppose que lorsque nous parlons République comme patrie, on ne parle pas Congo comme État, parlons Congo comme République, comme patrie, comme héritage que nous avons eu de Patrice Emery Lumumba.
Merci. Alors, Joël Cadet, le Rassemblement a déposé son mémorandum auprès des chancelleries occidentales pour rejeter ce format de dialogue. Pensez-vous que la communauté internationale peut entendre les revendications de cette frange de l'opposition?
Mais si vous avez suivi le discours du chef de la MONUSCO hier, il a exactement demandé au pouvoir de tenir compte des revendications du Rassemblement. Et mon confrère a dit qu'il, Jeff Mungambe, a dit qu'il ne faut pas individualiser le débat ou le dialogue. Mais je peux lui rappeler, hier, Alpha Condé, le président guinéen, a rencontré son opposant.
C'est le dernier dialogue, oui.
Parce qu'on connaît qui sont à la base, qui incarnent cette crise. Alors qu'il est, c'est le gagnant de l'élection 2011, et son poursuivant direct, qui est M. Etienne Tshisekedi. Si les deux pouvaient se rencontrer, ça décrisperait la chose. Mais que l'on mette en place un décor qui paraît d'une cuisine prête à être mise sur la table, c'est ce qui cloche un peu. John d'ailleurs l'a dit. Et même Kodjo paraît avoir mis la croix sur le Rassemblement lorsqu'il a parlé s'il faudrait emprunter les propos ou les termes utilisés par mon confrère Jeff Mungambe. Donc, même quand Caméra a parlé, il lui dit non, mais allez-y, on sait pas, jeter les filets, et si vous pourriez les rattraper. Mais dans sa perception, on a déjà mis une croix sur le Rassemblement, et c'est là où je me posais la question. Qui devait
qui devait voir Kamere? Est-ce le rassemblement? Est-ce le G7 ou c'est le président de la République pour ne fût-ce que décrisper la situation? Qu'est-ce que ça coûterait au président de la République aujourd'hui que l'on accorde une liberté provisoire à Jean-Claude Muyambo, dont le dossier n'a pas encore clôturé, ça n'a même pas encore connu le processus du fond. On n'a jamais entamé le fond. On lui accorde la liberté provisoire, il commence à répondre pratiquement à la justice. Qu'est-ce que ça coûterait au président de la République d'accorder la liberté à Diomi Dongala qui a déjà fait plus de 5 ans? Il y avait Evoloko ici qui avait été arrêté pour le même fait, mais il a été libéré 2 ans. Merci. Et il est sorti pratiquement sur les tipos et acclamé même. Mais pourquoi on ne peut pas suivre ces petit exemple là, pour mettre le rassemblement, le G7 et les autres dos au mur, pour dire, bon écoutez, mettons nos querelles à côté, mais mettons les poursuites contre Moïse comme c'est leur conditionnalité, mettons ça à côté, venez parlons. Si on peut mettre ces gens là dos au mur, en accédant à leur préalable, je crois que les choses peuvent avancer. Donc la personne que devrait voir M. Vital Kamerhe, au lieu de chercher à se faire vedette, c'est le président de la République, lui demander: ouvrez les autres chaînes de télévision. Vous avez ouvert ma chaîne, c'est bon. Vous avez ouvert la chaîne du MLC, c'est bon. Ouvrez les chaînes de Lubumbashi.
D'accord.
Voilà un peu. Dès qu'on accède à ça, on aura ces gens-là. Et s'ils peuvent encore monter d'autres préalables, on va dire alors, ce sont eux qui sont un obstacle au processus de paix, au processus du dialogue.
D'accord.
Mais là, il faudrait trouver les obstacles ailleurs que dans le chef du rassemblement.
Merci. Alors, à la veille du démarrage de ce dialogue, on a assisté à plusieurs dénonciations. Le député Jean-Bertrand Iwanga a démissionné de son poste de secrétaire général de l'UNC à cause, selon lui, du danger qui pointe à l'horizon quant à l'issue de ce dialogue. Je vous propose de l'écouter au micro d'Askin Zibia.
J'ai été au comité préparatoire et je me suis rendu compte que c'est un environnement de pièges. Ce sont des débauchés du côté de l'opposition. Et aussi, j'ai noté dans les apartés, dans les couloirs, que la volonté claire et manifeste de la majorité sur le changement de la Constitution. Moi, étant de l'opposition, je veux dire du rassemblement et de la dynamique, je n'ai pas voulu soutenir toutes ces thèses. Mais pour ne pas faire ombrage à la direction prise par le parti, c'est-à-dire mon président pour le dialogue, Vital Kamerhe, je préférais lui laisser les mains libres. Pour éviter toute contradiction prochaine, moi je préfère démissionner de mon poste de secrétaire général. Le souci pour moi, c'est que le peuple congolais comprenne que ce dialogue, la majorité a beaucoup d'artifices autour de ça. Et si dans les 2 semaines, on ne répond pas dans la logique de la majorité, vous allez voir, la majorité va faire recours d'un référendum et ça va augurer de lendemain malheureux pour notre pays.
Jeff, vous avez suivi les révélations de Jean-Bertrand Iwanga. Est-ce qu'elles sont à prendre au sérieux, selon vous?
Moi, je ne suis pas comme eux, les politiciens qui ne se font pas mutuellement confiance. Nous, nous faisons confiance à chacun ce qu'il dit et qu'à lui-même d'en assumer la suite. En fait, moi, ce que plutôt je vois de positif dans Iwanga, c'est le fait de prendre le courage de démissionner à temps, et mais aussi de ne pas quitter son parti. Vous voyez, cette manière de faire, c'est vraiment une bonne leçon. Mais ce qu'il dénonce comme stratagème du pouvoir, bon, il n'y a que lui qui sait, bon, nous on ne peut pas savoir, bon, nous sommes journalistes, à nous d'investiguer, et peut-être l'avenir lui donnera raison quand cela va pouvoir arriver. Mais je voudrais revenir un peu aux tergiversations de départ,
rapidement,
comme tous les amis le disaient, avec des mesures de crispation comme on le demande. C'est bien, nous savons tous que quand il y a négociation, il faut toujours savoir faire les concessions. Il ne faudrait pas ici que l'opposition, notamment le rassemblement, donne l'impression d'être toujours rigide et d'exiger au pouvoir de faire plus que ce qu'eux le font. Moi, je pense que ce que le pouvoir a déjà fait, c'est déjà un pas. Ça nous permet de démarrer déjà. Et il y a des cas particuliers. C'est comme on disait tantôt là. Vous pensez que réellement, si Muyambo sortait aujourd'hui, il va apporter grand-chose à ce forum? Parce que d'abord, on dit qu'il est malade. On cherchera d'avoir encore le moyen pour d'abord l'amener à l'hôpital, tout ça. Donc, ce n'est pas une condition vraiment qui peut empêcher au forum de se dérouler correctement. Et même quand on parle du cas du président Katumbi, je suis supporter de Mazimbe moi-même. Mais ne voulons pas une chose et son contraire.
Merci.
Ici, quand quelqu'un je sais que ça, ce sont des politiciens, mais ils ont aussi d'autres dossiers qui n'ont rien à voir avec la politique. Alors, il ne faudrait pas que demain, quand Moïse Katumbi, quand Tshisekedi, quand, je sais pas moi, Kamere sera au pouvoir, que c'est que lui condamné, qu'il puisse le soutenir.
D'accord.
Ou qu'il puisse condamner ce que lui soutenait. Vous voyez un peu ce genre de jeu avec les politiciens.
Voilà, je vous redonne la parole tout de suite.
Un ou deux personnes.
Je vous redonne la parole tout de suite. Joël Cadet, est-ce que vous pensez que les déclarations de Jean-Bertrand Iwanga sont fondées?
Il a tout simplement suivi ce que Mike nous avait révélé deux semaines ou trois semaines avant. Mike Mukeba est le fondateur du journal Congo News, qui a fait la prison, qui était avec Iwanga en prison, et d'ailleurs, dans un même pavillon. Moi, j'ai trouvé tout simplement qu'il est venu réconforter la position que nous avons du rôle qu'a joué M. Kamere dans l'opposition depuis tout ce temps. Donc, il n'y a rien à redire là-dessus. Et ça, c'est de un et de deux. Quand il le dit, moi personnellement je le félicite. Je le félicite parce qu'il n'a pas quitté également le parti, il est resté au sein du parti pour poursuivre les combats. Mais comme son président a déjà entrepris certains contacts dans l'informel nocturne pour faire passer l'UNC dans le rôle qui a été le sien, en ayant entraîné, n'est-ce pas, les Claudel Lubaya et lui-même Iwanga, et les Iwanga ont compris qu'aujourd'hui qu'ils avaient été placés dans une position où ils ne peuvent pas faire ombrage. Ils laissent Kamere poursuivre son travail qu'il était en train de mener, et question qu'on voit là où ça va mener, mais il a donné quelque chose qu'on peut évaluer dans deux semaines. Et parce que la majorité veut l'obtenir par la ruse. Et pourtant, comme je l'ai dit, parce que je me suis inspiré de Nazem Nazembe, qui a dit dans notre journal, dans Impact News, que si on ne touche pas à la question liée à la révision constitutionnelle, et si la majorité ne veut pas prendre ses responsabilités pour en parler directement, donc on pourra avoir un gouvernement à l'issue de ces dialogues, parce que les termes de référence pour ces dialogues, c'est déjà connu pour ceux qui sont. C'est mettre en place un gouvernement d'union nationale, c'est partager le pouvoir et renvoyer les élections au calendrier grec. On sait que tous ceux qui sont allés là-bas, c'est pour l'argent, c'est pour les postes.
D'accord.
C'est ainsi que je
vous redonne la parole.
Je voudrais juste conclure pour dire que attendons pour voir dans deux semaines si on n'a pas abordé réellement cette question-là, si le pouvoir pourra facilement à faire aboutir les choses. Mais moi, je suis très sceptique.
D'accord. John, comment vous avez analysé les discours de Jean-Bertrand Iwanga, très rapidement?
Oui, pour moi, très rapidement, je veux le dire d'ailleurs en quelques mots, c'est un discours qui n'est pas crédible. Déjà, le fait qu'il soit membre du comité préparatoire et la manière dont il est sorti de là montre que c'est quelqu'un qui est entré là-bas avec les, il était déjà préparé justement à faire ça, à jeter un discrédit sur le processus dialogique,
même
le processus
lui a proposé des
dialogues juteux. Regardez même au Gabon le comportement du vice-président de la CENAP qui a démissionné. Vous comprenez tout de suite que c'est quelqu'un qui a été préparé à ça. Nous disons ceci, ce que Iwanga a fait, c'est une manière, c'est un processus de fragilisation qui est entamé justement au sein de certaines formations politiques pour jeter un discrédit sur les acteurs engagés dans cette démarche citoyenne qu'est la Constitution. Mais ce que nous conseillons à la majorité, à l'opposition, à la société civile et à la facilitation, c'est qu'on doit arrêter par rapport à ce dialogue. On ne doit pas donner de l'importance aux individus, accorder de l'importance à des structures. Vous devez négocier avec des structures et des personnes qui engagent des structures. Il ne faut pas nous donner l'impression que vous négociez avec vos sous-traitants. Si D'accord. c'est avec les sous-traitants, là c'est très dangereux. Il faut négocier avec les structures. Et le rassemblement, la politique, ce n'est pas seulement la rigidité. À un certain moment, vous devez faire preuve de flexibilité. Nous avons la revendication principale, c'est Moïse Katumbi, mais faites aussi un pas comme la majorité a déjà fait un pas.
D'accord.
Citoyens.
Très bien. Alors, pour conclure, nous allons déjà conclure, il nous reste moins de temps dans cette émission. Quelle peut être l'avenue de ce dialogue? C'est la question de cette dernière partie, justement. Une piste de sortie, c'est ce qu'a proposé le consortium des ONG de la société civile, parmi lesquelles AETA, COGESKI, CALCC, CINECAT et le groupe AMOS. Ces ONG proposent un calendrier électoral perfectible qui prouve, selon eux, que la tenue de l'élection présidentielle est possible dans le respect du délai constitutionnel. Le porte-parole de cette coalition a même affirmé que l'enrôlement des nouveaux majeurs et des Congolais de l'étranger peut se régler en un jour. Comment vous analysez cela, Joël, et vous allez conclure en même temps?
Non, je suis d'accord avec Kapiamba et tous les consortiums dans la mesure où c'est possible de faire les choses, mais là vous sentez que dans le chef du gouvernement on ne veut pas aborder le réel problème. Le réel problème c'est la succession ou le maintien au pouvoir du président de la République Joseph Kabila Kabange. Mais malheureusement ils ne veulent pas y aller comme ça a été fait au Rwanda, en Ouganda et au Congo-Brazzaville. Ils veulent y aller par des subterfuges qui ne tiennent pas debout. Moi je souhaite que la majorité présidentielle mettre sur la table le réel problème qui est le leur, qu'ils veulent faire passer, faire responsabiliser les autres. Parce qu'ils ont refusé d'organiser les élections pour que l'on garde le président de la République au pouvoir. C'est connu de tous, même de ma grand-mère qui est au village. Il laissait même la grand-mère de Vitakura le sait. Alors, ce que je demande, c'est qu'ils mettent la carte sur table, qu'on révise la Constitution comme ils le veulent et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais l'opposition, le rassemblement, a demandé qu'ils puissent endosser cette responsabilité, je crois qu'il y a lieu de qu'ils voient bien leur position avant d'entrer dans ce dialogue. Je conseille donc la démocratie consensuelle, parce que c'est l'unique moyen, le changement du système qui pourra permettre en sorte que les élections dans les jours à venir ne puissent pas provoquer les troubles sur le terrain.
Ce sera aussi votre conclusion. John, votre conclusion.
Ce que ces ONG disent est loin de la vérité. Du point de vue technique, ils refusent tout simplement de dire la vérité, parce que je ne veux pas dire qu'ils ont menti. Les élections, la base d'une élection, techniquement parlant, c'est le fichier électoral. C'est le fichier électoral qui peut garantir une élection apaisée, transparente et crédible. Ils savent, ils veulent seulement plonger le pays dans le chaos. Le problème du processus électoral ne peut pas se régler à partir d'un salon. Vous êtes assis là-bas, vous faites un communiqué, voilà, vous pouvez régler le problème des majeurs en un jour. Je crois qu'on ne peut pas se moquer de toute une nation comme ça.
En conclusion,
nous disons à ces ONG de se référer aux techniques. Moi, j'ai travaillé à la CENI. Les élections, ce n'est pas ce que nous disons à la radio, à la télévision. Les élections, c'est une matière technique et c'est un tout. Et c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux. Ce n'est pas parler avec légèreté, ça peut se régler en un jour. Non. Conclusion, nous disons ceci. La RDC, le monde entier vous regarde. Et regarde nos leaders politiques. Ils doivent être des responsables pour décider de l'avenir de ce pays. Nous sommes en difficulté. Je l'ai dit, partager 9 frontières, on ne peut pas embraser le pays. Parce que quand vous embrasez la RDC, ce sont les 9 frontières qui sont embrasées. Négocier avec des structures. Nous devons avoir le courage de dresser nos fronts et regarder l'avenir avec responsabilité.
Merci.
Je termine la question de Béni. C'est important ce que Kamere a dit. Je pense, comme il a proposé le raccourci, que le président de la République le reçoivent, qu'ils proposent le raccourci. Donc voilà,
merci.
Et la SENCO. La SENCO doit rester constante dans sa démarche. J'ai appris qu'elle veut se retirer du dialogue. C'est très dangereux, mais c'est une information de couloir.
Ce sera aussi votre conclusion. Jeff Wingham, votre conclusion avant de clôturer cette émission complètement.
Oui, merci beaucoup. Je soutiens aussi la déclaration des ONG qui sont tout le temps, ce dernier temps, en sellette. Avec Kapiamba George particulièrement, j'ai jugé ça de trop fantaisiste. Moi, je pense qu'il faudrait quand même certainement le Congolais ait deux pieds sur terre et qu'il réfléchisse correctement. Je sais que les gens reçoivent de l'argent de l'extérieur, ils doivent justifier les dépenses, effectivement, auprès de leur bailleur de fonds. Mais ce qu'ils disent, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas fondé pour pouvoir. Et aujourd'hui, tout le monde se rassure au moins que, en moins de 3 mois, organiser les élections présidentielles particulièrement dans le délai constitutionnel, c'est une utopie. Et ça, tout le monde le sait. Même tous ces opposants radicaux là, ils le savent.
Merci.
Mais toutes ces déclarations qu'ils font, c'est juste pour la consommation de leurs militants.
Merci.
Nous attendons à la presse de pouvoir aider. Et la presse de l'État était aussi trop partisane, parce que la presse, surtout la presse chinoise particulièrement, elle prend toujours position, les uns pour l'opposition, les uns pour... on entend même dire que des journaux proches de l'opposition, des journaux proches du pouvoir, Et ça ne facilite pas aussi la cohésion, et ça ne facilite pas l'avancée des choses.
Merci
à
beaucoup.
La jeunesse c'est d'être instrumentalisée.
D'accord.
Vous voyez, tous ces gens-là...
Rapidement, on est arrivé à la fin de notre émission. Je prends ça pour votre conclusion. Ce sera la fin de la tribune de presse de ce vendredi 2 septembre 2016. Je dis merci à Kéline Kouté qui m'a aidé à la préparer, Pelle Kipé Lamondo qui l'a supervisé et Paul Badianyama qui était à la mise en onde. N'hésitez pas à nous faire des remarques et suggestions. Écrivez-nous à dec@radiocapi.net. Excellente suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.